France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Les députés donnent leur accord à un assouplissement de la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires en France. En plus des conseils départementaux, les maires pourront donc décider de revenir sur cette mesure décriée, entrée en vigueur il y a un peu plus d'un an. L'amendement voté dans la soirée hier fait partie du projet de loi mobilité qui est toujours examiné à l'Assemblée nationale. Les urgentistes manifestent et Agnès Buzyn lâche du lest. Ils étaient un demi-millier hier dans les rues parisiennes pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail, des personnels venus de toute la France. La ministre de la Santé leur a promis dans la foulée une stratégie d'ensemble pour refonder le secteur. Elle n'a pas donné de chiffres ni annoncé de budget supplémentaire. Cela n'a donc pas convaincu les manifestants. Emmanuel Macron et Donald Trump ont célébré le débarquement en Normandie hier, 75 ans après l'arrivée des Alliés sur les plages normandes. Des vétérans au cimetière américain de Colville-sur-Mer dans le Calvados ont été longuement applaudis. Les deux dirigeants se sont aussi entretenus en tête-à-tête, le président américain assurant ensuite que les relations avec Emmanuel Macron et la France étaient exceptionnelles. Au Royaume-Uni, c'est aujourd'hui que Theresa May démissionne officiellement. Cela se fera par un simple échange de lettres avec le président du comité 1922, qui est l'organe régulateur du parti conservateur en Grande-Bretagne. En pratique, cependant, la première ministre restera à son poste jusqu'à ce qu'un successeur soit désigné. Vous le comprendrez grâce aux explications de notre correspondant dans le journal de 6h30. Dans une demi-heure également, un représentant de l'Ifremer réagira à cette étude de WWF. La France est le plus gros pollueur de déchets plastiques en mer Méditerranée. 10 000 plastiques venus de France finissent dans cette mer semi-fermée. Et puis notons que la Coupe du Monde de football féminine débute ce soir. Elle se déroule en France. Premier match des Bleus face à la Corée du Sud. 24 équipes au total participent. Et à ce stade, 950 000 tickets ont été vendus pour cette compétition qui doit s'achever le 7 juillet.
Un espace de création affranchi des codes, chaque dimanche à 23h, l'expérience. Aurélie Charron.
Son père est plutôt anticlérical, mais il a eu la foi. Thomas Guillaume Bataille part en quête de ses racines chrétiennes. Ce sont les confessions d'un athée qui aime les églises, la Bible et le blasphème. Une adresse très personnelle à Jésus qui commence par « Fais-moi signe si tu existes ». Un journal de bord sonore où se croisent Notre-Dame en flammes, l'apôtre Thomas, Pasolini et même Jean-Jacques Goldman.
L'expérience, ce dimanche à 23h, à prolonger sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture et nous retrouvons Toufik Hakem pour parler ce matin bande dessinée.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et au programme ce matin dans le réveil culturel, trois points de suspension, la princesse de Clèves, encore elle, cette fois en bande dessinée. En réalité, c'est la princesse de Clèves et Marie-Madeleine de Lafayette, la fiction et son auteur, qui sont au centre d'une bande dessinée à plusieurs lectures, à plusieurs niveaux de lecture, et je reçois les auteurs ou les autrices, puisqu'il faut dire ça comme ça aujourd'hui, Catel Muller et Claire Bouillac. La princesse de Clèves est une bande dessinée éditée par Dargo. Merci de vous réveiller tôt avec le réveil culturel, si vous nous écoutez à la radio, et merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner au podcast. Émission préparée en compagnie de Corinne Amard, de notre stagiaire Maëlle Ray. C'est une émission réalisée par Vincent Abouchard avec ce matin à la technique Antoine Viosa.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Claire Bouillac.
Bonjour.
Et bonjour Catel Muller.
Bonjour Toufik.
Alors, cette princesse de Clèves, est-ce que ça rentre dans cette dynamique de riposte à la réplique de Nicolas Sarkozy? On se souvient, en 2006, il n'était pas encore président de la République, il était ministre de l'Intérieur, il avait osé toucher à la princesse de Clèves, et depuis, tout le monde s'est levé pour défendre ce patrimoine littéraire. aujourd'hui étudié dans les grandes écoles. Il a fait son entrée depuis, ce roman a fait son entrée à la Pléiade. Il a été adapté au cinéma par Christophe Honoré. Et vous venez, vous, avec l'adaptation pour la bande dessinée.
Je lis La Princesse de Clèves, c'est notre badge.
Ouais, il y a eu le badge, effectivement, bien sûr, il y a eu toute une histoire. Alors, est-ce que votre bande dessinée s'inscrit dans ce mouvement de protestation « Touche pas ma princesse de Clèves » ?
Pas seulement. Mais oui, bien sûr, ça a été... On était complètement pas d'accord avec Nicolas Sarkozy. Et c'est un livre qui est formidable, qui d'ailleurs va être, dès l'année prochaine... au bac, au programme du bac général et technologique. Jusqu'ici, c'était La Princesse de Montpensier. Et c'est un texte qui est formidable et qui garde une très très grande modernité.
Alors, petit rappel pour les Martiens qui viennent de débarquer en France et qui voudraient savoir pourquoi Nicolas Sarkozy n'a pas dit du bien de La Princesse de Clèves. Résumé de cet épisode fondamental par Claire Bouillac.
Eh bien,
c'est le contenu, je suppose, c'est pas le style littéraire de Madame de Lafayette.
Alors, je ne suis pas sûre qu'il ait été jusque-là, je ne sais pas s'il l'a lu, il trouvait que c'était sadique de le faire lire, donc c'était plutôt le style, je suppose, mais c'était pas très clair dans ce qu'il disait. Il disait que c'était du sadisme d'obliger des élèves à le faire lire, à le lire.
C'est pas donc l'histoire, parce qu'on peut dire que peut-être qu'il était moralisateur. Il s'agit quand même d'une jeune épouse qui va tomber amoureuse d'un homme et elle ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut le dire à son mari? Est-ce qu'il faut qu'elle vive cette passion? C'est le déchirement de La Princesse de Clèves.
Mais oui, on espère que c'est pas un problème moral au 21e siècle quand même. On sait qu'on a le droit de tomber amoureux. Il y a des gens qui divorcent aujourd'hui et qui changent de vie. Alors évidemment, cette action-là se passe au 16e siècle. Madame Lafayette, elle l'a écrite au 17e siècle. Elle-même, elle a une vie un peu comparable à celle de la princesse au début, parce que c'était une jeune fille de 16 ans arrivée à la cour qui a perdu son père très tôt. Et donc c'est très compliqué, que ce soit au XVIe ou XVIIe siècle, d'être une jeune fille, de découvrir la cour, les mondanités, et en même temps la vie, c'est-à-dire les rivalités, l'amour, la politique, les complots. La princesse est toute naïve, et elle est obligée de faire face à ce monde qu'elle découvre, et de faire face en fait à toutes ces agressions du monde à laquelle elle n'est absolument pas préparée.
Alors c'est vous deux qui avez signé l'adaptation en bande dessinée du roman de Madame de Lafayette. Quand je dis vous deux, c'est-à-dire Catel et Bouillac, c'est ainsi que vous signez cette bande dessinée éditée chez Dargaud. Et après vous vous êtes partagé le travail pour ce qui est du dessin, parce que l'idée originale de cette bande dessinée, il faudrait quand même le préciser en préambule, c'est que vous n'adaptez pas seulement La Princesse de Clèves, vous racontez aussi l'histoire de son auteur. Et ça, c'est vous, Catel. Alors vous, Catel, où vous êtes occupé justement de dessiner la partie Madame de Lafayette, c'est-à-dire.
Oui, c'est ça.
Et l'histoire, c'est Bouillac qui la met en bande dessinée.
Voilà. En fait, on a travaillé à quatre mains, mais on a fait tout le scénario ensemble. Donc on a vraiment partagé le travail de scénariste. En revanche, pour le dessin, Claire s'est occupée de la partie adaptation de La Princesse de Clèves, le roman. Et moi, je me suis occupée du prologue et de l'épilogue qui raconte, qui met en scène en fait son autrice, Madame de Lafayette. Quand je dis autrice, je pèse mes mots parce qu'on disait autrice au XVIIe siècle. Elle se revendiquait, enfin on la nommait autrice à ce moment-là. On met un petit peu en miroir et en lumière cette histoire que finalement cette histoire en rapport avec la vie même de Madame de Lafayette et ses sentiments et ce qu'elle a ressenti elle-même. Et on veut faire le parallèle. On a essayé de faire le parallèle entre cette histoire vécue et cette histoire fantasmée.
Ouais, elle aurait pu dire bien avant un autre illustre écrivain, La Princesse de Clèves, c'est moi. Mais elle l'a pas dit.
Et voilà.
Mais voilà. Pourquoi d'ailleurs? Parce que elle avait un drôle de rapport d'ailleurs avec ses romans, avec son
métier. Elle ne signait pas ses livres parce que ça ne se faisait pas. Une femme n'avait pas pour mission à cette époque-là d'écrire, même si le mot autrice existait. C'était quand même assez mal vu. Une femme pouvait, à la limite, être intellectuelle et être dans des salons, partager des idées avec ses amis en prenant le thé, mais en aucun cas ne devait pratiquer l'écriture, alors que les hommes, c'est tous ses amis, que ce soit Ménage, Huet, Segret ou La Rochefoucauld, bien sûr, se gargariser.
Qui l'ont soutenu et encouragé.
Et qui l'ont soutenu, bien sûr, parce que c'était tout à fait admis, implicitement. Eux-mêmes, ils signaient leurs ouvrages et en étaient très fiers. Et c'était très noble d'écrire pour un homme, mais pour une femme, c'était de petites vertus de signer, d'écrire. Donc, elle pouvait avoir des idées, mais passer à l'acte, c'était autre chose. Donc, elle ne préférait pas qu'on sache que c'était elle, bien que tout le monde le sache. C'était un petit milieu, Paris et les intellectuels, comme plus tard les Lumières. C'était des petits groupes très, très connus entre eux. Et tout le monde savait qu'elle avait écrit ce livre, mais elle ne voulait pas qu'on dise que ce soit elle. Et on l'appelait le brouillard parce qu'elle essayait de semer le doute, de pas dire que c'était elle, que c'était quelqu'un d'autre, etc. C'était très étrange, mais c'était comme ça parce que la position de la femme voulait ça à ce moment-là.
Alors quand vous avez travaillé, Catel, parce qu'on a l'impression que vous savez tout sur Madame de Lafayette.
Je suis un peu de science.
C'est-à-dire vous avez lu toutes les correspondances.
Oui, mais bien sûr avec d'ailleurs avec Claire, on a partagé le travail. On a beaucoup lu, bien sûr, de biographies, des biographies aussi croisée de La Rochefoucauld, d'autres personnages qu'elle a croisés pour bien comprendre les relations qu'elle avait et puis le monde dans lequel elle vivait aussi, pour bien inscrire sa situation et sa pensée et faire la corrélation avec l'histoire de cette princesse qui a priori a l'air assez lointaine par rapport à sa propre vie, mais qui en réalité est très proche psychologiquement de son propre drame intime.
Et Bouillac, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une manière de faire le parallèle entre le statut des femmes à cette époque-là et ce qui se passe aujourd'hui ?
Oui, parce que de toute façon, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une histoire très, très moderne, parce que... quoi qu'on fasse aujourd'hui, et quels que soient les progrès techniques et tout le progrès dans lequel on vit, pour découvrir l'amour quand on a 16 ans et pour découvrir la vie en général, on passe exactement par les mêmes étapes. Et que Madame de Lafayette, qui du reste décrivait la cour et disait elle-même qu'elle connaissait la cour et qu'elle finalement elle a décrit sa propre cour, celle de Louis XIV, en parlant de celle d'Henri II, à 100 ans de différence... et à 500 ans de différence, on continue à passer exactement par les mêmes étapes quand on découvre l'amour. On n'a toujours pas fait de progrès là-dessus.
Claire Bouillac et même Catel Müller, comment vous avez fait pour adapter ce roman ? Des choix de...
Techniquement, vous voulez dire ?
Oui. Non, mais déjà...
Concrètement ?
Concrètement, ouais.
On a commencé par faire... un travail de bande dessinée, d'adaptation, donc on a fait le découpage, et ensuite on a travaillé toutes les deux vraiment pour l'adaptation du scénario, on a vraiment fait à deux, et on a fait un storyboard ensemble, comme on est toutes les deux à la fois scénaristes et dessinatrices. Je pense qu'on a vraiment un livre là qui est, même si on a dessiné chacune notre partie, où on a mis chacune quelque chose partout, c'est-à-dire que chacune dessinant, on avait des idées aussi, graphique et visuel pour chaque image. Donc on s'enrichissait l'une l'autre et je pense qu'on n'aurait jamais fait les mêmes images l'une sans l'autre.
Tous les dialogues sont tirés du roman de Madame de Lafayette ou il fallait faire une adaptation
Il y a eu forcément une adaptation parce que déjà pour...
Donc réinterprétation.
Et trahison si vous allez par là, mais oui, autant que possible on a essayé de rester très proche de la musique de la langue, on a essayé de rester le plus fidèle possible et d'essayer, évidemment il y a des choses qui dans un roman peuvent passer, dans un texte écrit peuvent passer et qui ne vont pas passer dans une bande dessinée, déjà parce que il y a des choses qui vont être des redites par rapport à une image, mais il y a aussi des formulations et des tournures qui sont très compliquées à faire passer dans un dialogue, et donc on a été obligé de faire des choix, parfois aussi d'un point de vue du vocabulaire, parce que par exemple, maîtresse ne voulait pas forcément dire la même chose à l'époque qu'aujourd'hui. Ça a été un des mots sur lesquels on a été obligé de vraiment réfléchir. Et on a quand même, on est resté le plus proche possible de sa langue. Et on espère avoir réussi ça, parce que garder, comme je vous disais, cette musique vraiment.
On voit bien qu'il y a une envie de contextualiser cette histoire, hein. Il y a des reconstitutions, il y a les châteaux de l'époque, il y a les tenues de l'époque, et pourtant, ce n'est pas ça qu'on retient, puisque vous avez décidé dans votre traitement graphique de ne pas insister là-dessus, hein. La plupart des scènes les plus poignantes de la princesse de Clèves, telles que vous l'avez adaptée en bande dessinée, ça reste sur fond blanc, c'est-à-dire on reste dans la dramaturgie des personnages.
Oui, parce que je pense que c'est vraiment le centre complet du roman. Après, on a fait un très gros travail de documentation. Moi, je suis allée à Chambord, j'ai été reçue aux archives de Chambord, à Blois. J'ai travaillé avec des guides, des gens comme ça pour essayer d'être...
En prenant des croquis ?
Oui, des photos, Bouillac, des croquis, hein. Tout ça. J'ai refait certaines scènes, certaines cases, parce que j'ai rencontré une guide de Chambord qui connaît très bien Blois aussi, qui m'a donné des gravures, qui m'a dit que certaines fois je m'étais trompée, et puis il y a tout un, enfin je peux même pas vous expliquer tout parce qu'il y a des symboliques dans Chambord, par exemple. Chambord, maintenant il y a plus que deux portes, avant il y en avait trois parce que c'était la Jérusalem céleste. Enfin, il y a des choses de symboliques très très fortes que j'ai commencé à entrevoir un peu. C'est passionnant, mais ça c'était quelque chose qui, une fois qu'on le sait, on a envie vraiment d'être aussi proche de la vérité historique que possible quand on fait des recherches de documentation comme ça. Mais même pour ce qui est de la princesse, par exemple, on a décidé de lui lâcher les cheveux pour qu'elle soit sans arrêt la fille qu'on remarque, parce qu'elle a les cheveux lâchés et que c'est celle qu'on voit dès qu'elle arrive, on ne remarque qu'elle. Or, à l'époque, aucune femme n'avait les cheveux lâchés. Donc, on a pris des petites libertés sur tout ça. Mais, en effet, dès lors que quelque chose de vraiment important psychologiquement se passe, on a fait des choix graphiques qui permettent de se centrer sur les personnages, oui.
Qu'est-elle ?
Oui, tout à fait. Et
même si on a quelques éléments historiques. Par exemple, moi, j'ai appris qu'on jouait déjà au tennis à l'époque.
Au jeu de paume.
C'est le jeu de paume, oui, bien sûr.
C'est,
oui.
C'est quasiment pareil.
C'est l'ancêtre du tennis. Et oui, bien sûr. Alors, bien sûr, beaucoup de documentation. Claire a passé des heures et des jours à ça. Moi, un petit peu moins, mais aussi de mon côté, mais j'ai l'habitude avec les romans graphiques que je fais avec Joselie Boquet. Donc, c'est un exercice qui est à peu près incontournable.
Guy de Montparnasse, Joséphine Becker et j'en passe.
Et Olympe de Gouges, un siècle après. Ouais, c'est ça. Mais donc ça, on peut pas l'éviter, ce moment où il faut vraiment se documenter, et c'est pour plus de véracité. Donc c'est très important de passer par cette étape de se renseigner. Ça amène beaucoup de choses et beaucoup d'éléments qu'on n'a pas forcément dans le texte. En revanche, parfois dans le texte, il y a des grandes descriptions très longues et un petit peu fastidieuses à lire. Et là, ça nous a permis en 2019, voilà, parce qu'elle décrit à quoi ressemble Chambord, par exemple, voilà, dans le moindre détail, ou les costumes, ou le carrosse, etc. Quand on le dessine, eh ben, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, souvent. Et c'est là qu'on a pu gagner un peu de place, si vous voulez, dans l'adaptation par rapport au récit initial. C'est en supprimant ces grandes descriptions et les détails, et en les mettant simplement en une image, et se concentrant après plus sur des portraits psychologiques pour raconter le fond de l'histoire, qui est ce drame.
La princesse de Clèves, c'est édité chez Dargaud, et je suis avec les deux auteurs, Bulac et Quetel.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas connu d'autre garçon que toi. Si j'en ai connu, je ne m'en souviens pas. À quoi bon chercher, faire des comparaisons? J'ai un cœur qui sait quand il a raison. Et puisqu'il a pris ton nom, toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je sais très bien pourquoi. On ne sait jamais jusqu'où ira l'amour. Et moi qui croyais pouvoir t'aimer toujours, oui, je t'ai quitté et j'ai beau résister, je chante parfois à d'autres que toi. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami. Et je ne sais pas pourquoi.
Marie Laforêt sur France Culture, ça n'a pas l'air de déplaire ni à Bulac, ni à Quetel, ça va? Mais les deux auteurs qui ont adapté donc en bande dessinée La Princesse de Clèves. Alors, il y a bien sûr cette adaptation d'un classique de la littérature, peut-être le premier roman historique. Hein. Il y a aussi cette envie de parler de notre époque en prenant toute cette distance. Parler du rôle de la femme, parler du féminisme.
Oui, alors il y a cette interprétation aussi de cette histoire. Dans le fond, c'est quoi cette histoire? Cette princesse qui arrive à la cour, qui découvre l'amour, qui est mariée très jeune. Je vais laisser un petit peu Claire développer, puisque c'est elle qui l'a dessinée, donc c'est un petit peu sa partie.
Oui, qui arrive en arrivant complètement de sa province et probablement d'un couvent ou à peu près l'équivalent, qui a à peine 16 ans, qui ne connaît strictement rien à rien. Sa mère va lui expliquer en très peu de temps à peu près tout ce qu'elle doit savoir, à savoir qu'il ne faut absolument rien croire de ce qu'elle va voir à la cour et de ce qu'on va lui dire. Et donc elle est projetée dans le grand bain immédiatement et elle découvre tout avec des grands yeux éberlués parce que elle se retrouve avec tout ce qu'on lui a dit jusque-là était faux. Tout le monde ment. Personne n'a une vraie vertu, il y a des jeux politiques partout. Elle se retrouve à devoir être mariée, tout un tas de jeux de politique encore font qu'elle épouse Monsieur de Clèves parce que finalement il est plutôt gentil, il est pas si mal et que bon ben voilà, il lui déplaît à la limite moins qu'un autre. Donc voilà, elle ne sait absolument rien, elle se laisse porter et tout à coup elle rencontre Nemours et là elle comprend tout ce qu'a voulu lui expliquer sa mère, tous les sous-entendus qu'elle a eus, elle les découvre étape par étape. Et au fur et à mesure du roman et de toutes les péripéties, que ce soit la lettre, l'épisode de la lettre, l'épisode du portrait, et tout ça, elle découvre la jalousie, le manque, le désir.
Elle découvre l'amour surtout, au début.
C'est ce que j'allais dire.
Est-ce que vous-même, vous avez découvert un peu de vos 16 ans, de votre jeunesse à travers ce roman? Est-ce qu'à un certain moment, vous avez mis ce que vous-même, vous avez vécu, ou c'est une adaptation très fidèle au roman de Madame de Lafayette?
Ah, c'est très fidèle au roman de Madame de Lafayette. L'idée, c'était vraiment de faire une adaptation la plus fidèle possible, aussi bien sur l'histoire que sur la langue. Ça, on n'a pas voulu déroger. Mais en revanche, bien sûr que y a aussi de nous dedans, parce que de toute façon, ce texte est intemporel. Ce texte raconte quelque chose, comme disait Claire, qui est ce qui arrive à toute jeune fille qui démarre dans la vie, c'est-à-dire elle découvre l'amour, ou pas d'ailleurs, ou elle pense croire que c'est l'amour, mais ça ne l'est pas. Et c'est en fait toutes les nuances, ces nuances de gris de l'amour, de la passion qu'elle découvre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que comme une pièce de théâtre, ça se passe en une année tout ça. Donc cette petite jeune fille arrive à la cour, elle a 16 ans, il y a 17 ans, elle va mourir de sa passion. On dévoile la fin, mais je crois que tout le monde la connaît déjà. Mais elle est happée par tous ces jeux politiques et tous ces jeux de l'amour. Et elle doit faire le tri de tout cela en quelques semaines. Et elle devient madame, elle se marie, et puis est-ce qu'elle va craquer parce qu'elle tombe amoureuse d'un autre garçon que de son mari? Est-ce qu'elle va l'avouer à son mari? Est-ce qu'elle va garder le secret, etc. Toutes ces questions qui se posent. Est-ce qu'elle va succomber à la tentation ou est-ce qu'elle va résister à cette tentation? Je crois qu'on a toutes et tous d'ailleurs connu ce problème dans sa vie.
Voilà, mais sauf que Madame de Lafayette va avoir une autre vie, même si elle est passée par les mêmes étapes de la passion amoureuse. Vous nous suggérez, justement, avec ce prologue et l'épilogue, c'est une princesse de Clèves malheureuse.
Ben oui, effectivement, on a découvert...
Pour ne pas dire soumise plus au destin, d'ailleurs.
Oui, comme l'étaient finalement les femmes à ce moment-là, sans être vraiment soumise, parce qu'elle a une forme de liberté qui est déjà celle d'écrire, tout simplement. Elle peut prendre sa plume et donc exprimer tout ce qu'elle a au fond d'elle, ce qui n'était pas donné à toutes les femmes de cette époque-là.
Oh bah, elle a sacrifié son talent littéraire, malgré tous les conseils qu'on lui prodiguait à l'époque.
Elle l'a pas vraiment sacrifié, elle s'est fait aider, elle a quand même pu se réaliser, mais elle s'est mariée très jeune, exactement comme la princesse de Clèves. Elle est arrivée dans un milieu, ses parents d'ailleurs travaillaient à la cour du roi, son père était écuyer, il est mort très tôt, sa mère était la fille du médecin du roi. Et elle a été mariée très tôt à un homme qu'elle, à mon avis, n'aimait pas forcément, mais qu'elle estimait. Et elle a eu, elle, deux enfants de cet homme-là. Mais par la suite, elle s'est mise à écrire. Elle a été soutenue par des grands écrivains, dont ce fameux Maxime de la Rochefoucauld, dont nous pensons qu'elle a été très amoureuse. Elle le suggère à peine, d'ailleurs. Elle dit que c'était plus qu'une passion pratiquement, puisqu'il y avait en plus la création.
D'ailleurs, tous ces dialogues avec Madame de Sévigné, c'est documenté?
Ah, ou bien c'est... évidemment, oui, oui. C'est vraiment des correspondances qu'elle a entretenues avec Madame de Sévigné. Donc j'ai lu des biographies, nous avons regardé aussi
Laquelle Madame de Sévigné a essayé jusqu'au bout de la protéger, de la pousser à continuer à écrire. Mais quand elle décide de se sacrifier, alors par amour, par déception amoureuse, par autre chose, elle va se retirer, même si à la fin de sa vie, elle va revenir effectivement à l'écriture.
C'est le parallèle effectivement à faire avec la princesse, c'est que elle résiste, nous pensons, à cet amour fou qu'elle a pour Monsieur de La Rochefoucauld et réciproque. Et quand Monsieur de La Rochefoucauld meurt, elle se laisse mourir aussi, elle arrête d'écrire. Et son amie veut la pousser parce que c'est ça son existence, c'est de continuer à écrire, c'est d'être une romancière, la première romancière reconnue. Ses livres ont un succès fou, c'est absolument inouï. Et il n'y a plus rien qui lui donne envie. Elle se laisse petit à petit dépérir parce qu'elle est dans une histoire, une passion. Et puis la passion pour elle est destructrice. Il faut savoir que Madame de Lafayette est une femme de raison et pas une femme de passion. Et elle essaye de démontrer pendant tout son livre que la passion est terrible, elle est nocive, il faut l'éviter. Et puis finalement, c'est parce qu'elle en a très peur et elle-même, elle est prise dans cette passion et finalement, elle est très sensible et elle essaye de faire comme si elle ne l'était pas. Mais c'est ça tout son art et toute sa sensibilité, c'est de camoufler cette grande sensibilité et cette aptitude à l'amour, justement.
Laquelle de vous deux, Katell Müller et Claire Bouillac, a eu cette idée d'adapter La Princesse de Clèves en bande dessinée?
Eh bien, nous,
voilà, c'est l'une,
notre
Maxime
de La Rochefoucauld, en tout cas moi personnellement, qui s'appelle José-Louis Boquet. Et nous avions envie, toutes les deux, de faire l'adaptation littéraire d'une femme écrivaine. Et il nous a soufflé, évidemment, la première grande romancière de l'histoire de France, celle qui a marqué tous les esprits, qui est Madame de Lafayette, avec sa fameuse Princesse de Clèves, éditée dans plusieurs langues depuis déjà des centaines d'années, et que c'était une évidence que...
Une évidence dans votre œuvre, Katell, vous qui avez décidé depuis quelques
années...
Oui,
dans notre parcours, à toutes les deux, dans le mien évidemment, parce que j'ai même songé à faire une biographie de Madame de Lafayette qui a une vie assez romanesque, donc elle m'aurait intéressée en tant que première romancière française, et peut-être que je la ferai un jour avec José-Louis Boquet. Mais avec Claire, nous avions envie de faire des adaptations littéraires, mais on pensait qu'il manquait quelque chose, peut-être de faire juste l'adaptation, c'était pas suffisant. On avait envie de mettre en exergue aussi la vie de l'autrice et voir s'il y avait des rapports entre l'autrice et son héroïne. Et là, évidemment, on est servi puisque les corrélations sont absolument évidentes.
Et qui vous a servi de modèle pour cette jolie Princesse de Clèves? J'ai lu quelque part que c'était plutôt une adaptation cinématographique des années 60, et donc Mylène de Mongeau.
Alors non, c'était Marina Vladi.
Bah voilà, c'était Marina Vladi.
Oui, et notre amie est Mylène de Mongeau.
Voilà, parce que le précédent livre que nous avons fait, c'était avec Mylène de Mongeau. Et d'ailleurs, c'était un petit peu à l'origine de notre idée de faire un...
D'où la confusion.
Lien, voilà.
Donc c'est plutôt Marina Vladi.
Alors oui, oui et non.
Oh,
c'est
maintenant
que
vous me dites ça, elle a quelque chose de Marina Vladi. Il faut changer juste la bouche elle est plus...
Oui, bien sûr, parce que toutes ces... Bon, on sortait du livre avec Mylène et qui avait été un petit peu à l'origine d'ailleurs de notre idée de mettre en parallèle l'autrice et son héroïne. Avec Dieu Karkov, c'était un petit peu ce qu'on avait fait avec le livre qu'elle avait écrit. Et le film... Avec Marina Vladi, oui, je vous cache pas que je l'ai beaucoup visionné pour son ambiance, pour la documentation qui est des costumes qui sont splendides.
Et pour Marina Vladi?
Alors au début un petit peu bien sûr, quand j'ai commencé, parce que je cherchais un peu dans tous les sens, et au bout d'un moment la princesse, elle s'est imposée d'elle-même. Les personnages qu'on dessine, et a fortiori quand on passe 3 ans avec un personnage, non seulement on s'y attache, mais en plus si ça fonctionne bien, il commence à vivre de lui-même et à... Oui, un peu plus de 3 ans, oui. Et il commence à exister par lui-même et je pense vraiment que la princesse, oui, elle s'est mise à exister par elle-même et à devenir quelqu'un. Au départ, on prend un petit peu des modèles. Par exemple, le prince de Nemours, pour rien vous cacher, c'est mon fils aîné. Et au bout d'un moment, ça devient quelqu'un d'autre, forcément. Ça devient le personnage lui-même.
Merci Claire Bouillac, merci aussi à Katell Müller, les deux autrices de cette adaptation en bande dessinée de La Princesse de Clèves qui paraît chez Dargo. Passez un excellent vendredi, un excellent week-end, on se retrouve lundi, merci d'être passé.
Merci.
Merci.
Vous Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture et le cinéma Majestic Bastille à Paris présentent les séances France Culture. Rendez-vous mardi 11 juin à 20h avec Zombie Child de Bertrand Bonello, présenté lors de la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Au prestigieux pensionnat de la Légion d'honneur à Paris, une adolescente haïtienne confie à ses nouvelles amies le secret qui hante sa famille. 55 ans plus tôt, en Haïti, un homme est ramené d'entre les morts pour être envoyé de force dans l'enfer des plantations de canne à sucre. Projection en avant-première, suivie d'un débat avec le réalisateur, animé par Antoine Guillot. Plus d'infos et réservations sur le site lesecransdeparis.fr.
Parlons culture, autrement, l'anachronique culturelle. Mathilde Serrel.
Et si nous faisions un voyage dans le temps ? Posons notre vaisseau spatial à l'inauguration de la fresque du Jugement dernier, devant le chantier des colonnes de Buren, ou à la première du Sacre du Printemps. L'anachronique culturelle vous propose de revivre ces grands événements de la culture comme si c'était hier, pour comprendre ce qu'ils disent de l'époque, mais aussi de notre présent.
L'anachronique culturelle, Mathilde Serrel, chaque vendredi, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Comme promis, Theresa May s'apprête à démissionner ce vendredi. La première ministre britannique va donc lâcher le dossier du Brexit qui n'est toujours pas bouclé. Encore faut-il lui trouver un successeur. Ce n'est pas chose rapide, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, un représentant de l'Ifremer nous expliquera pourquoi il y a tant de plastique en mer Méditerranée. Ce matin, WWF donne des chiffres alarmants. Et puis, l'ONU s'inquiète de la situation au Mali. Nous y ferons un point dans ce journal. C'est donc aujourd'hui que Theresa May démissionne officiellement. La première ministre britannique enverra pour cela une lettre au président du Comité 1922, l'organe régulateur du Parti conservateur en Grande-Bretagne. En pratique, cependant, rien ne change car il faut encore désigner le successeur de la première ministre. Le processus de désignation pourrait prendre 3 ou 4 semaines, peut-être même plus, Antoine Gignot.
Le départ de Theresa May, c'est un peu comme le Brexit. La première ministre annonce qu'elle quitte le gouvernement, mais dans les faits, personne ne connaît la date à laquelle elle va s'en aller. Pour quitter Downing Street, il lui faut aller voir la reine avec le nom de son successeur. La liste des candidats sera connue mardi matin, mais ils sont déjà plus d'une dizaine à vouloir prendre sa place. De la plus eurosceptique, Esther McVie, qui réclame une sortie immédiate de l'Union européenne, au plus pro-européen, Sam Gyimà, qui demande un second référendum. Au milieu, plusieurs anciens ministres, comme Boris Johnson, et 3 membres actuels du gouvernement espèrent tirer leur épingle du jeu. Pour avoir le droit de se lancer dans la course, ils doivent être soutenus par 8 députés minimum. Les parlementaires votent ensuite à plusieurs reprises. Ils éliminent à chaque tour le candidat qui recueille le moins de voix. Et ce n'est que lorsqu'il en reste 2 que les militants, à leur tour, sont autorisés à donner leur avis. Le processus est long et complexe. Le nom du prochain Premier ministre sera probablement connu autour du 20 juillet, au moment où les députés sont censés partir en vacances.
En Grande-Bretagne, toujours, le parti du Brexit de Nigel Farage s'incline face au parti travailliste après des législatives partielles dans l'est du pays. C'est un revers pour le parti du Brexit, fondé il y a quelques mois et arrivé largement en tête au scrutin européen fin mai. Il échoue donc à remporter son premier siège au Parlement britannique. La Méditerranée est noyée sous les déchets de plastique. C'est ce que nous dit un rapport alarmant du WWF publié ce matin. Il fait état de la pollution en plastique et analyse les responsabilité des 22 pays en mer Méditerranée, autour de la mer. 600 000 tonnes de plastique seraient ainsi rejetées chaque année et la France arriverait, selon l'association, en tête des plus gros pollueurs. Ces rejets proviennent à 79% des activités côtières et maritimes. Cela n'étonne pas tellement François Galgani. Il est directeur de recherche au bureau de l'Ifremer à Bastia.
Alors en fait, on a des chiffres, nous, qui sont de l'ordre de à peu près 500 tonnes par jour pour la Méditerranée. Et au-delà, et dans des évaluations les plus importantes, on peut même monter jusqu'à 700 tonnes, ce qui est considérable. Et donc, les chiffres qui sont donnés par le WWF ne nous étonnent pas vraiment. Oui.
Plusieurs sources de ces déchets plastiques.
Alors en fait, si vous voulez, la Méditerranée, elle a une situation très particulière. D'abord, c'est un bassin fermé, donc elle garde ses déchets. Il n'y a pas d'export. Il y a 30% du trafic mondial qui passe par la Méditerranée entre Gibraltar et Suez. Et donc, c'est important parce que c'est une source déchets non négligeables. Puis après, il y a effectivement les activités côtières. Donc d'abord, les grandes villes, il y en a beaucoup, hein, avec des villes très très grandes comme Alexandrie, ou bien des apports de villes pas très loin de la côte, comme le Caire, par exemple. Et puis, on a également donc le tourisme, qui est c'est la première destination dans le monde, hein, la première destination touristique. Et donc forcément, il y a tout un ensemble d'activités qui génèrent des déchets, et donc des plastiques associés.
Des propos recueillis par Maxime Beckmer de France Bleu Fréquence Samora pour France Culture. L'Assemblée nationale a voté hier soir la possibilité d'un assouplissement par les départements et par les maires de la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires. Un vote à main levée qui modifie donc la limitation impopulaire, considérée comme l'un des détonateurs de la crise des gilets jaunes. Là, il s'agit de limiter les dommages engendrés par les trottinettes en libre-service qui fleurissent dans les grandes villes et surtout à Paris. La maire de la capitale, Anne Hidalgo, veut interdire les stationnements de trottinettes sur les trottoirs. Cela passera par un arrêté préfectoral. Paris compte aujourd'hui 12 opérateurs qui ont mis en circulation plus de 20 000 trottinettes électriques. Le site des impôts a-t-il subi une attaque informatique en début de semaine? La question se pose après la connexion quasi simultanée lundi soir de 3 millions d'utilisateurs sur le site pour déclarer les impôts. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, avait accordé un délai supplémentaire de 48 heures, délai qui s'est terminé cette nuit. Et une double enquête a été ouverte, Grégoire Le Callot.
C'est la procédure en cas de suspicion d'incident de sécurité. Deux enquêtes parallèles ont été ouvertes, l'une interne au ministère des Finances et l'autre externe confiée à l'ANSSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. Selon une source proche de Bercy, des adresses IP suspectes venues de l'étranger ont été repérées dans le pic de connexion qui s'est produit sur le site impots.gouv.fr, laissant planer l'hypothèse d'une attaque de pirates informatiques. Cette attaque est-elle avérée? Si oui, quel rôle a-t-elle joué dans le blocage du site? La réponse a-t-elle été satisfaisante? Autant de questions auxquelles devront répondre ces enquêtes. Autres hypothèses évoquées pour expliquer cette vague, le week-end de pont ensoleillé qui aurait incité les derniers contribuables à repousser encore leurs déclarations et une rumeur lundi sur les réseaux sociaux laissant croire qu'il s'agissait du dernier jour pour la faire alors qu'en fait il restait encore 24 heures.
Radio France a prévu de supprimer entre 270 et 390 postes, tous métiers confondus, sur les trois prochaines années. Cela s'inscrit dans le plan d'économie de 60 millions d'euros prévu par la direction de Radio France. Les syndicats refusent pour le moment de signer tout compromis. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer d'ici la fin du mois sur la prolongation ou non du mandat de la MINUSMA au Mali et de ses 15 000 casques bleus déployés sur le terrain. Une présence internationale alors que le secrétaire général des Nations Unies affirme qu'il existe un fort risque d'atrocité à venir au Mali. La violence y est en effet quotidienne, Valérie Crova.
Le diagnostic que pose Antonio Guterres sur le Mali n'est pas exagéré. Le secrétaire général de l'ONU craint un risque d'escalade dans un pays livré à une multitude de groupes d'autodéfense. Ces milices se substituent à un État défaillant, incapable d'endiguer ce déchaînement de violence qui a atteint son paroxysme avec le massacre de Gossagou. Qu'elle soit l'œuvre de groupes djihadistes ou le fruit de règlements de comptes entre Peul et Dogon, ces violences se poursuivent. Yvan Guichawa est maître de conférence à la Bruxelles School of International Studies.
Il y a eu des exécutions sommaires, des raids commis sur des villageois, des enlèvements de personnes qui sont souvent d'ailleurs filmés. Un tel soupçonné d'être complice des djihadistes se fait embarquer par des chasseurs traditionnels. Ces épisodes-là se répètent quasi quotidiennement. Aujourd'hui, le ciblage est tel que il ne semble pas du tout scandaleux de parler de logique d'épuration ethnique.
Face à la dégradation de la situation sécuritaire, Antonio Guterres plaide pour une prolongation de la mission de la MINUSMA. Il lui faudra convaincre les États-Unis qui voudraient la réduire. Le secrétaire général des Nations Unies milite quant à lui pour son renforcement dans le centre du Mali, là où les risques d'exaction sont les plus importants.
L'Allemagne juge à partir d'aujourd'hui deux djihadistes. C'est un procès inédit dans le pays. Est accusé un couple qui préparait une bombe biologique et avait prêté allégeance au groupe État islamique. Ce couple risque jusqu'à 15 ans de prison. Le Forum économique de Saint-Pétersbourg s'est ouvert hier en Russie, en présence notamment du numéro 1 chinois, Xi Jinping. Un forum marqué aussi et surtout par un feuilleton judiciaire qui secoue depuis 4 mois maintenant le monde des investisseurs étrangers, notamment français, en Russie. L'un des dirigeants français du fonds d'investissement Bering Vostok est emprisonné et poursuivi en Russie pour une fraude de 33 millions d'euros. Il clame son innocence et cela empoisonne les relations entre la France et la Russie, Claude Bruyot.
Depuis le mois de février et le début de l'affaire Bering-Vostok, la Russie aurait perdu 40 milliards de capitaux d'investissement. L'emprisonnement et les poursuites pour fraude du tandem américano-français, pourtant réputé à la tête de ce fonds d'investissement, seraient à l'origine de ces pertes. Mais si l'Américain Michael Calvi, que Vladimir Poutine appelle par son prénom, est sorti de prison, le Français Philippe Delpal, qui clame en vain son innocence, demeure lui détenu. Dans une affaire présentée par les uns comme un différend commercial entre actionnaires et par les autres comme une fraude à grande échelle, c'est aujourd'hui l'irrationnel qui semble commander. Un peu comme si les Russes reprochaient aux Français d'avoir discrédité leur marché en clamant trop fort l'innocence de Philippe Delpal. Alors même pourtant que Vladimir Poutine en personne, il y a deux jours encore, souhaitait que l'affaire se termine bien, à condition, avait-il dit, de respecter la loi russe. Et c'est là où tout se bloque, dans le système judiciaire ici, difficile de revenir en arrière sans se désavouer, car tout commence par la présomption de culpabilité.
Le temps sera agité, pluvieux et venteux ce vendredi avec 8 départements du Grand Ouest en vigilance orange. Jusqu'en fin de journée, une tempête nommée Miguel arrive. Elle touchera tout le pays dans l'après-midi. Il pleuvra donc pour le début du mondial de football féminin. Ce soir, il est organisé en France. Ce matin, comptez 13 degrés à Brest, 16 à Bordeaux, 18 degrés à Lille, Paris, 20 degrés ce matin à Besançon, 23 à Lyon, 25 déjà à Marseille ainsi que sur la Corse. Il est 6h40, vous écoutez France Culture. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées. Jacques, un rapport alarmant sous l'égide de l'ONU a récemment fait état d'une dégradation irréversible de la biodiversité. Les fleuves forment une part essentielle des écosystèmes menacés.
Oui, car ils sont, selon l'expression de Gilles Boeuf, les rives de la biodiversité. Le biologiste signe un article éclairant sur l'anatomie et la pathologie des fleuves dans la dernière livraison de la revue Relief. Il rappelle que les rives et les berges constituent des milieux très riches en espèces à la charnière entre l'air et l'eau, qu'ils sont des systèmes extraordinairement vivants qui conditionnent aussi bien le cycle de l'eau que celui du carbone, la richesse des sols que le grouillement des espèces, et qu'ils ont chacun une personnalité propre. Même s'ils sont, comme le souligne Roberto Eppl, parmi les écosystèmes ceux qui, grâce à leur dynamique, se régénèrent le plus rapidement, ils sont uniformément pollués. L'hydrobiologiste revient quant à lui sur l'histoire immémoriale de leur présence familière et propice à la vie. Ils collectent l'eau de la fonte des glaciers, les pluies, le ruissellement dans les montagnes et les collines, creusent gorges et vallées, s'entremêlent et se rassemblent par bassins hydrographiques, créant d'immenses réseaux d'artères qui irriguent la planète. C'est sur leurs rives que naquirent les premières civilisations, et ce sont les corridors fluviaux qui ont servi de voie de communication pour la diffusion du savoir, de la culture et des biens. Jadis sauvages, libres et sacrés, ils sont aujourd'hui surexploités pour produire l'énergie mécanique, puis hydroélectrique, alimenter les usines par leurs eaux détournées, soutenir une agriculture intensive et polluante. En Europe, 1 million de seuils ou de barrages entravent leur libre circulation, celle de l'eau, des sédiments et de la vie aquatique. La revue publie un extrait de l'histoire d'un ruisseau par Élisée Reclus. Chacun a son babil, son murmure ou son grondement à lui. Mais la source qui naît à la plus grande hauteur et fournit la plus grande course jusqu'à la vallée est celle du pic le plus élevé. Là, c'est une nuée blanche qui est à l'origine. La montagne a mis son chapeau, dit le paysan. Après avoir été nuage, brouillard, pluie traînante, elle va reparaître fontaine à quelques centaines de mètres plus bas, dans une crevasse ou dans un léger pli de terrain. Pour le géographe, la suite de l'histoire n'est pas une course chaotique de descente entre les brusques inégalités du sol, les différences de pente les plus soudaines, les plans où l'eau semble s'endormir avant de s'élancer avec fureur dans les précipices perpendiculaires. Lorsqu'il calcule et trace la courbe décrite par le ruisseau jusqu'à la verdoyante vallée, il trouve que cette ligne est d'une régularité presque parfaite. Le torrent, travaillant sans relâche à se creuser un lit à son gré, abattant les saillies, emplissant de sables et d'argile les petits creux de la roche, a fini par se développer en une parabole régulière. Crues et étiages forment la vie naturelle du fleuve, l'alternance périodique de ses hautes et basses eaux. La crue et les inondations qu'elle provoque jouent un rôle essentiel en permettant la circulation des sédiments ou l'entretien des forêts riveraines. Faute de respecter cette pulsation lente, on s'expose à des catastrophes. La première d'entre elles fut la grande crue du Mississippi en 1927. Susan Scott Parrish en a retracé l'histoire culturelle dans un livre récent publié par CNRS Éditions. Les aménagements d'ampleur industrielle du bassin versant, la déforestation, l'assèchement des zones humides et la monoculture sont à l'origine d'un désastre qui a provoqué des centaines de victimes et déplacé 1,5 million de personnes, principalement afro-américaines. Histoire culturelle parce que l'événement, qui a duré toute l'année au gré des évolutions de la météo, est le premier à avoir été relayé jour après jour par les médias et avoir inspiré artistes et écrivains, ou réveillé les fantômes de la guerre de sécession et de l'esclavage, avec le confinement des populations noires dans des camps de concentration par des planteurs de coton qui leur interdisaient toute évacuation pour les astreindre à poursuivre la production. William Faulkner a consacré 3 de ses plus grands romans à saisir et décrypter le sens de l'événement, dont l'un au cœur même de la catastrophe, Le bruit et la fureur. Malgré ce titre un peu tapageur, elle n'est pas sur le devant de la scène, mais quelque part dans sa zone narrative propre entre le familial, l'historique, l'environnemental et le mythique apocryphe. L'écrivain rôde sa méthode consistant à faire ressortir les lieux à travers leur sédimentation dans les gens. À l'heure où il découvre les thèses freudiennes sur l'inquiétante étrangeté, il fait du matériau du fleuve le contenu déguisé des rêves, des réminiscences et des préoccupations de son personnage, mais aussi dans la conscience de notre responsabilité à l'égard de la nature, que traduit cette phrase « Je vois le déluge monter ». Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Minier, bonjour à tous.
Voilà, vous êtes d'équerre avec votre micro, votre nouveau casque.
On s'y fait petit à petit, on s'habitue à parler plus loin en fait.
Voilà, au sommaire des enjeux aujourd'hui, Xavier, les pays du Golfe, l'union dans la rivalité.
Oui, c'est ça, vous l'avez sans doute entendu cette nuit, c'est finalement le Premier ministre japonais Shinzo Abe qui tentera une médiation entre l'Iran et les États-Unis, un développement inédit alors qu'il y a une semaine encore, c'était le roi Salman d'Arabie Saoudite qui tentait d'isoler la République islamique, lui qui avait convoqué pour ce faire 3 sommets arabes à la Mecque. Il a tenté de constituer un front arabe commun timide alors que l'unité interne du Golfe est, elle, fragilisée 2 ans après la rupture des relations diplomatiques avec le Qatar. Alors, qui peut stabiliser la région? On essaye de joindre Karim Sader qui se trouve à Beyrouth, qui est politologue et consultant spécialisé dans les pays du Golfe. La ligne pour l'instant est difficile à obtenir. Simplement quelques éléments sur ces 3 sommets. C'était celui, donc les 3 en 2 jours qui se sont tenus à la fin de la semaine dernière, les 30 et 31 mai. Premier sommet, celui de la Ligue arabe. Sommet ensuite du Conseil de coopération du Golfe et puis sommet de l'Organisation de coopération islamique vendredi dernier, le 31. Une situation assez intéressante et inédite pour l'Arabie Saoudite, donc le grand pays du Golfe, inédite puisqu'il était en crise de popularité après l'affaire Khashoggi et puis son action au Yémen. Alors on a réussi à joindre Karim Sader, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone ce matin. Je rappelle donc que vous êtes politologue, consultant, spécialiste du Moyen-Orient, pays du Golfe et professeur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Je rappelais donc dans mon introduction ces 3 sommets à la fin de la semaine dernière qui se sont tenus en Arabie Saoudite. Simplement, le fait qu'elles tiennent 3 sommets coup sur coup à l'Arabie Saoudite, c'est une situation inédite tout de même.
Oui, alors ce qu'on voit... Alors déjà, il faut noter que c'est quelque sorte un hasard du calendrier, parce que se tenait en même temps le sommet de l'organisation de la conférence islamique, et puis il y a eu les exigences de l'actualité, c'est-à-dire ces sommets ont fait suite, ce sont des réunions d'urgence qui ont été convoquées par Riyad, suite donc aux incidents qui ont eu lieu contre les infrastructures pétrolières de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis fin mai. Donc voilà, l'Arabie Saoudite en quelque sorte aussi cherche à redorer son blason, qui est extrêmement écorné depuis déjà quelques années, et a focalisé aussi l'ensemble des acteurs de la région, de ses alliés en tout cas, du Conseil de coopération du Golfe face à la menace iranienne.
Et ces incidents, vous l'avez dit, c'était quatre bateaux, dont deux pétroliers qui avaient été victimes de sabotage. John Bolton avait parlé de mines iraniennes. Est-ce que, on va en venir à l'Iran, mais simplement, est-ce que le fait d'avoir réussi à convoquer deux sommets extraordinaires, celui du Conseil de coopération du Golfe et de la Ligue arabe, c'est une bonne affaire diplomatique de ce point de vue-là pour l'Arabie saoudite en crise de popularité, on pourrait dire?
Oui, mais il faut dire quand même que le résultat de ces sommets est assez mitigé, parce qu'elle a réussi, certes, l'Arabie, à réunir tous ces gens-là et à déclarer, en quelque sorte, à produire une déclaration officielle, donc, où encore une fois, on focalise, on enlève les sujets de divergence de côté, on les met sous le tapis, et puis on affiche donc l'épouvantail iranien, sauf que finalement, cette déclaration, officieusement, n'a pas été suivi par un certain nombre d'acteurs clés. Je pense à l'Irak, par exemple, mais aussi au Qatar, qui est un membre aussi du Conseil de coopération du Golfe et qui n'a pas adhéré à cette déclaration.
Oui, oui. Ce qui fait que finalement, si on entre dans le détail, il y a eu une condamnation des actions iraniennes par le Conseil de coopération du Golfe, également par la Ligue arabe, mais pas par l'Organisation de coopération islamique, c'est bien ça ?
C'est un peu plus compliqué, effectivement, dans le cas de cette dernière organisation que vous avez citée. Il faut rappeler qu'il y a la Turquie qui en est membre, et l'Iran aussi. Donc, c'est un peu plus difficile. On voit bien que quand on sort du précaré saoudien du Golfe, il est plus difficile de produire un consensus. Et je dirais également que même si l'Arabie saoudite a réussi à faire adhérer l'ensemble des adhérents de la Ligue arabe et du Conseil de coopération du Golfe à cette déclaration officielle, dans les faits, sur le terrain diplomatique, force est de constater que il n'y a pas la même attitude adoptée par l'ensemble des membres du CCG. Le Qatar entretient des relations assez proches avec l'Iran. Je ne parle même pas d'Oman, qui a des relations privilégiées avec Téhéran.
Et par contre, il y a un sujet qui a fait consensus à l'Organisation de coopération islamique, c'est la dénonciation du transfert de l'ambassade américaine et l'appel, je crois, à un boycott, je ne sais pas si c'est des termes officiels, mais des pays qui ont ouvert une ambassade sur place. Ça, c'est un peu le seul sujet capable de réunir encore les pays arabes, en tout cas au sein de l'Organisation de coopération islamique.
Oui, vous avez raison de souligner, en tout cas au sein de l'OCI, parce que finalement, dans le sommet de la Ligue arabe, et ça a été énormément pointé du doigt par les détracteurs de l'Arabie saoudite, que ce soit à l'issue du sommet de la Ligue arabe et celui du CCG, finalement la question palestinienne a été reléguée au second plan. Et on voit bien l'évolution finalement de la politique étrangère saoudienne qui, au fur et à mesure des années, a fini par abandonner en quelque sorte la question donc... Vous savez, cette carte à charge très émotive au sein de la rue arabe, qui est la question du peuple palestinien, finalement, elle a relégué au second plan, quitte à se rapprocher. Et on sait très bien que l'Arabie saoudite est aujourd'hui un allié d'Israël, s'est rapproché énormément de l'État hébreu, à côté des Émirats arabes unis, d'ailleurs. Et donc, on voit bien que cette question a été, au contraire, reléguée au second plan, au profit, justement, de la question de la menace iranienne qui est, en quelque sorte, l'obsession de la monarchie saoudienne.
Alors, ça, c'est pour les communiqués. Sur la question de la forme, mais qui n'en est pas seulement, c'est la participation. Il y a une absence qui a été remarquée. C'est celle du président Erdogan. Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères, Çavuşoğlu, à la place. Qu'est-ce que ça signifie dans ce contexte? C'est un désaveu? C'est une manière de signifier son désaccord à l'Arabie saoudite?
Alors, il faut pas oublier déjà qu'il y a... plane encore dans la relation entre l'Arabie saoudite et la Turquie, la terrifiante affaire du malheureux journaliste Khashoggi, donc qui a été assassiné au consulat saoudien en Turquie, et qui a entraîné un froid entre ces deux pays qui, je rappelle, sont en concurrence. Il faut savoir que la Turquie et l'Arabie saoudite se disputent le leadership au sein d'un monde sunnite très divisé. Il y a donc cette question-là. Il ne faut pas oublier non plus que la Turquie est un parrain international de la confrérie des frères musulmans qui sont honnis par l'Arabie saoudite, qui est la menace première, je dirais, bien plus que l'Iran d'ailleurs, pour la stabilité de la monarchie saoudienne. Donc effectivement, on a encore donc cette affaire Khashoggi et c'est sur fond de lutte de leadership sunnite qui plane encore sur l'organisation de la conférence islamique.
Et de ce point de vue-là, deux questions en une, mais est-ce que on aurait tort de dire que c'est encore la principale ligne de fracture, cette rivalité justement pour un leadership sunnite Arabie Saoudite d'un côté, Qatar de l'autre, et est-ce que en même temps c'est une rivalité qu'on pourrait dire d'alliance Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis contre Qatar et Turquie de l'autre côté?
Oui, c'est même si ce serait un petit peu simplificateur, mais en quelque sorte, oui, il y a des alliances qui se sont dessinées ainsi. Il ne faut pas oublier que depuis le blocus qui a été décrété de manière unilatérale par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, donc il y a un blocus qui a 2 ans aujourd'hui, depuis donc le 5 juin 2017, donc il y a un blocus qui a été décrété contre le Qatar, Qatar à qui on reproche, donc pour rappel, sa politique. Alors, on reproche beaucoup de choses au Qatar, mais notamment sa politique pro-frères musulmans, et qui n'a fait qu'inciter, et donc le blocus a poussé le Qatar dans les bras de la Turquie notamment, qui dispose aujourd'hui, Ankara dispose aujourd'hui, d'une importante base militaire au Qatar. Donc, effectivement, il y a eu un rapprochement encore plus important entre ces deux pays qui soutiennent en quelque sorte la confrérie des frères musulmans à travers la région.
Oui, puisque vous le rappeliez, il y a 2 ans, c'était effectivement des propos attribués à l'émir du Qatar favorables aux frères musulmans et à l'Iran qui avaient déclenché la colère des autres pays du Golfe et l'ostracisme. Alors justement, rupture des relations diplomatiques, dernière question, ostracisme de pure forme, on pourrait dire, ou pas, parce que économiquement, tous les rapports montrent que le Qatar se maintient bien et qu'il a même trouvé, on pourrait dire, de nouvelles opportunités finalement dans cet embargo en développant son agriculture, par exemple.
Alors, sans minimiser non plus l'impact de cet embargo, parce qu'il faut se rendre à Doha pour quand même constater que les hôtels sont vides, les affaires peinent à démarrer, hein, donc il y a un impact, mais ce n'est pas l'impact qui avait été espéré par leurs commanditaires, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, épaulés par Bahreïn d'ailleurs. À cette époque-là, Riyad et Abu Dhabi avaient parié sur la chute carrément du régime du Cheikh Tamim, de l'émir en place à Doha. Non, effectivement, le Qatar a réussi, grâce à sa politique étrangère d'équilibriste, c'est-à-dire de tisser des alliances tous azimuts, grâce à la solidité de son économie et surtout de son secteur gazier, puisque le Qatar est l'un des premiers producteurs mondiaux de GNL, de gaz naturel liquéfié, et grâce, effectivement, vous l'avez souligné, à un surplus d'alliances qu'elle a réussi à tisser, notamment avec Oman, pour contourner ces voies d'exportation qui ont été bloquées par les Émirats et par l'Arabie Saoudite. Donc on voit bien que, finalement, la diplomatie flexible du Qatar lui a porté chance et lui a permis de contourner cet embargo. Et aujourd'hui, les résultats escomptés de cet embargo sont quasi caduque aujourd'hui pour l'Arabie Saoudite.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes vos explications. Ce matin, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Karim Sader, professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture, la Bibliothèque nationale de France et le Centre national du livre présentent « En lisant, en écrivant », une collection de masterclass littéraires en public avec de grands écrivains contemporains. Mardi 11 juin à 18h30, retrouvez Jérôme Ferrari, prix Goncourt 2012 pour « Le serment sur la chute de Rome » et « À son image ». Une rencontre animée par Lucille Como. Entrée libre dans la limite des places disponibles à la BNF François Mitterrand Paris 13e. Programme complet, franceculture.fr.
Et à 6h57, entrée libre sur France Culture avec les matins de Guillaume Herner. Bonjour
Guillaume. Mais bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et vous voudriez, paraît-il, commémorer les commémorations?
Eh bien oui, en découvrant hier les commémorations du débarquement, je me suis dit qu'il ne serait pas inintéressant d'avoir une histoire des commémorations. Comment en est-on arrivé à commémorer ainsi la Seconde Guerre mondiale? Tenez cette année par exemple cette question, comment a-t-on réussi à effacer les Russes de la photo, à commémorer un événement de la Seconde Guerre mondiale sans que les Russes soient présents? Alors juste un chiffre sur ce que la Seconde Guerre mondiale doit aux Russes. 68% des hommes nés en Russie en 1923 sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur 5 soldats allemands morts au front pendant la Seconde Guerre mondiale, 4 sont morts sur le front de l'Est. Et pourtant, pas de Russes, donc, pour cette nouvelle Seconde Guerre mondiale. Pas de Russes, probablement, parce que les Russes de maintenant nous dérangent. Pas sûr pour autant qu'ils soient pires que les Staline ou même les Brejnev, que l'on conviait évidemment naguère aux commémorations. Mais enfin, notre rêve, c'est d'avoir une histoire propre. Alors peut-être un jour, on va commémorer, par exemple, la Révolution française sans Robespierre, ou bien on aura droit à un baptême de Clovis éco-responsable. Donc une Seconde Guerre mondiale sans soviétique, très bien. Et puis une Seconde Guerre mondiale gagnée par les Français. Je veux dire, un Martien débarqué hier sur les plages du débarquement aurait pu croire que nous avons reporté la bataille et bien évidemment la guerre, une manière d'évacuer les mille questions que continue à nous poser notre défaite. Et d'abord, comment a-t-on réussi à perdre la guerre? Puisque je vous le rappelle, sinon apparemment ça n'a pas été fait, que la France avait plus d'armes, d'hommes et de tanks en 1940 que les Allemands. Dès lors, notre devoir de mémoire doit nous inciter, bien sûr, à célébrer les 177 hommes du commando Kieffer qui étaient sur les plages du débarquement. Il ne serait pas inutile non plus de nous rappeler les autres, ceux qui ont accueilli l'armistice comme un lâche soulagement, parce que, comme le disait l'historien Marc Bloch, mort assassiné pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au bout, notre guerre aura été une guerre de vieilles gens ou de forts anthèmes engoncés dans les erreurs d'une histoire comprise à rebours. Je ne suis pas sûr du tout, je suis même sûr du contraire, que ce genre de commémoration nous aide à comprendre les événements censés être commémorés. Marc Bloch, encore lui, estimait, je le cite, que l'incompréhension du présent naît fatalement de l'ignorance du passé. Eh bien, en ne commémorant pas l'étrange défaite, on ne risque pas de comprendre notre tout aussi étrange histoire.